Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Guillaume Nodin.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appel sur l'actualité. Dans une demi-heure, ce sera le débat. Le président guinéen Alpha Condé doit-il, selon vous, briguer un troisième mandat comme le lui demande son parti, le RPG? Nous attendons vos appels. Donnez-nous votre avis au 33 9 693 693 70. Vous connaissez le numéro. Mais tout de suite, c'est l'heure des questions sur l'actualité de ces derniers jours. Les journalistes de RFI et nos experts répondent à ces questions. Et la première question, c'est avec Adem qui nous appelle le Garoua au Cameroun. Bonjour Adem.
Bonjour Guillaume.
Merci d'être avec nous. Alors, deux violentes explosions ont secoué Beyrouth la semaine dernière, détruisant une partie de la ville. Il y a 158 morts, des dizaines de disparus, des milliers de blessés, des centaines de milliers de sans-abri. L'incendie de plusieurs tonnes de nitrate d'ammonium semble être à l'origine de cet événement. Quelle est votre question, Adem?
Oui, j'aimerais savoir, monsieur Guillaume, comment explique-t-on la présence en grande quantité d'un produit aussi dangereux en pleine ville de la capitale? Peut-on déjà établir des responsabilités?
Alors, on va, pour répondre à votre question, bien, nous avons tout simplement l'envoyé spécial de RFI à Beyrouth. Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour Guillaume, bonjour Adem, bonjour à tous.
Vous avez entendu la question d'Adem. Comment explique-t-on la quantité de ce produit aussi dangereux, la présence en pleine ville, quoi?
Alors déjà, il faut bien s'imaginer que le port de Beyrouth est situé géographiquement au cœur de Beyrouth. La ville s'est d'ailleurs construite autour de son port, puisque c'est le poumon économique du pays, du Liban, depuis des dizaines, des centaines d'années. Et il faut bien comprendre que 80% des marchandises que le Liban importe arrivent dans ce port de Beyrouth. Elles sont débarquées sur le port et donc elles se retrouvent de façon presque naturelle, toutes ces marchandises, au cœur de la ville, puisque ce port a été construit, la ville s'est construite autour de ce port. Voilà pour l'explication géographique. Mais se pose aussi la question de comment une telle quantité de nitrate d'ammonium est arrivée dans ce port de Beyrouth. Alors l'histoire est un peu compliquée, elle remonte il y a 7 ans, en 2013, lorsqu'un vraquier, c'est un bateau de transport de marchandises qui s'appelle le Rossus, accoste dans le port de Beyrouth. Alors c'est un bateau en mauvais état, hein. On appelle ça un bateau poubelle dans le jargon. Comme souvent dans la marine marchande, il est enregistré au Panama, mais navigue sous pavillon de complaisance moldave avec un équipage ukrainien. Bref, tout cela est un peu compliqué. L'intérêt de ce pavillon de complaisance, c'est que pour le propriétaire du navire, il va bénéficier d'avantages fiscaux ou être soumis à des normes de sécurité moindres que celles en vigueur dans le pays où il est enregistré. Bref, tout ça est purement économique. Alors en 2013, donc, le Rossus, qui a chargé en Géorgie 7750 tonnes de nitrate d'ammonium à destination du Mozambique, va arriver à Beyrouth un peu par hasard, en fait, puisque quelques jours avant de franchir le canal de Suez pour se rendre au Mozambique, eh bien, le propriétaire du navire décide de lui faire un arrêt inopiné à Beyrouth pour charger un peu plus de cargaison afin de gagner encore un peu plus d'argent pour payer la traversée du canal. Mais voilà, en chargeant le matériel en question à Beyrouth, eh bien, la porte d'une soute du navire est abîmée et après une inspection des autorités libanaises, le navire est jugé déficient, il est cloué à quai et ne reprendra plus jamais la mer. Sa dangereuse cargaison, elle, sera déchargée sur le port, stocké dans le fameux entrepôt numéro 12, celui qui a explosé et qui est donc en plein centre-ville. Et le Rossus, lui, sera laissé et oublié dans un coin du port de Beyrouth. Son propriétaire ne paiera d'ailleurs jamais pour le récupérer. Voilà comment cette cargaison de nitrate d'ammonium s'est retrouvée au cœur d'une ville. D'abord parce que le port est géographiquement situé au cœur de la ville et deuxièmement parce que le propriétaire de ce navire voulait gagner un peu plus d'argent, a débarqué, a fait entrer son bateau dans ce port de Beyrouth et pour des raisons de sécurité, il y a été maintenu et sa cargaison déchargée.
Alors Pierre, vous avez entendu la deuxième partie de la question d'Adem. Est-ce qu'on peut déjà établir des responsabilités?
Alors c'est toute la question et si je le savais évidemment je vous le dirais. En tout cas les Libanais sont très en colère justement car les responsabilités sont difficiles à établir car forcément des personnes étaient au courant que cette bombe à retardement attendait là calmement dans le port à l'abri des regards. Mais au Liban les responsables politiques sont connus pour se couvrir entre eux et se renvoyer les responsabilités. Par exemple le directeur général des douanes sous l'autorité du ministère des Transports assure qu'il avait donné l'alerte à 6 reprises en envoyant envoyant des lettres au juge des référés de Beyrouth en lui expliquant qu'une cargaison très dangereuse avait débarqué dans ce port de Beyrouth. Mais le juge des référés se défend et estime que les lettres ne devaient pas lui être adressées à lui car ce n'était pas son domaine de compétence et ainsi de suite. Vous voyez la complexité pour faire la lumière sur les responsables de cette catastrophe dans un pays réputé pour sa classe dirigeante gangrénée par la corruption. Alors, peut-être une lueur d'espoir pour tenter de calmer, d'apaiser les Libanais. Une enquête administrative a été promise par le président et le premier ministre au lendemain de l'explosion, il y a presque une semaine. Elle devait rendre son rapport ce week-end. Vous n'avez rien entendu sur ce rapport et c'est normal, il n'a pas été rendu public. Et d'ailleurs, beaucoup de Libanais n'ont pas confiance en cette enquête et demandent une enquête internationale, une demande qui a été refusée tout simplement par le président Michel Aoun.
Merci Pierre-Olivier. Adem, est-ce que Pierre-Olivier, notre envoyé spécial à Beyrouth, est-ce qu'il a répondu à vos questions, comme vous l'espériez ?
Tout à fait, il est convaincant.
Merci beaucoup Adem et merci à vous Pierre-Olivier. Deuxième question, on enchaîne, on part à Lomé, au Togo, pour retrouver Gims. Bonjour Gims.
Bonjour Guillaume.
Les téléphones de plusieurs opposants et personnalités religieuses togolaises ont été surveillés par un logiciel d'espionnage utilisé par les autorités. Quelle est votre question Gims ?
Oui, la première question c'est comment fonctionne ce logiciel et qui peut l'utiliser?
Alors, la seconde question, on en reparle tout à l'heure si vous voulez bien. Nous sommes en ligne avec Étienne Meignier qui est technologiste à Amnesty International, l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez entendu la première question de Gims. Comment fonctionne ce logiciel d'espionnage et qui peut l'utiliser?
Oui, tout à fait. Alors, Pegasus est un logiciel malveillant. Donc, c'est un virus informatique pour téléphone qui est développé par un SO Group. Et une fois qu'un téléphone est infecté par Pegasus, le téléphone envoie des informations aux clients d'un SO Group qui l'utilise. Et il permet de transformer le téléphone réellement en outil d'espionnage. C'est-à-dire que d'une part, la personne va pouvoir espionner toutes les communications du téléphone, les contacts, les appels, les SMS, etc. Mais également transformer le téléphone en un outil d'espionnage de la personne, puisque le son peut être enregistré via le micro ou la vidéo par la caméra. Sur qui peut l'utiliser? NSO Group vend cet outil uniquement à des agences gouvernementales, principalement des organisations de police ou des services de renseignement, et officiellement uniquement pour la lutte contre le terrorisme. Sauf qu'on sait aujourd'hui, et on a de nombreux exemples, que ces outils sont utilisés bien au-delà de ce qu'on pourrait qualifier de lutte contre le terrorisme. Et dans de nombreux pays, comme récemment cette révélation au Togo, on a des exemples d'utilisation de ces outils pour cibler des militants des droits humains, des journalistes, des personnages de la société civile. Et aujourd'hui, à Amnesty, on pense que ça crée de graves problèmes en termes de violation des droits humains, parce qu'il est impossible de militer, d'exprimer ses droits sans avoir une liberté d'expression et donc sans être capable d'avoir une certaine sécurité numérique.
Gims, vous aviez une deuxième question.
Évidemment. De quelle façon est-il possible de lutter contre ce genre de logiciel?
Étienne Meignier, est-ce qu'il y a des possibilités de se prémunir contre ce genre d'attaque et ce genre d'espionnage?
Alors déjà, il faut rappeler que effectivement, ces outils ne sont pas disponibles très largement et ciblent en général très peu de personnes, mais des personnes qui peuvent être des personnes militantes de la société civile. Techniquement, c'est compliqué de se protéger contre Pegasus parce que NSO Group utilise des failles de sécurité non corrigées, c'est-à-dire des failles, c'est-à-dire des problèmes de sécurité dans des logiciels. Normalement, quand des problèmes de sécurité sont trouvés, ils sont corrigés par les éditeurs, sauf qu'aujourd'hui, il y a un vrai marché noir de revente de ces failles de sécurité, et NSO Group rachète des informations sur ces failles de sécurité à des prix pouvant aller jusqu'à plusieurs millions. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec WhatsApp l'année dernière. NSO Group a exploité un problème de sécurité dans WhatsApp qui permettait avec un simple appel d'infecter des téléphones. Quand WhatsApp s'en a aperçu, ils ont non seulement corrigé ce problème, mais également informé les un peu plus de 1200 personnes qui ont été ciblées, incluant ces 4 personnes au Togo. Et a commencé une requête légale aux États-Unis contre NSO Group pour abus de leur plateforme. Et donc techniquement, il y a quelques possibilités, mais c'est assez compliqué. On pense qu'il doit aussi y avoir des réponses légales et juridiques. Pour nous, ces ventes d'armes numériques doivent être vraiment limitées. Donc l'année dernière, avec d'autres organisations, nous avons par exemple fait une requête légale au ministère de la Défense israélien pour demander de révoquer l'export, la licence d'export qui permet à NSO d'exporter ses armes en dehors d'Israël, au motif de ces multiples violations des droits humains. Alors malheureusement, le juge a débouté notre requête il y a un peu plus d'un mois, et on pense que c'est une honte, puisque Amnesty et d'autres organisations depuis plusieurs années montrent que ces outils sont utilisés pour attaquer des militants et militants des droits humains et journalistes très régulièrement dans de multiples pays. Et aujourd'hui, on demande à ce que ces ventes d'armes soient interdites jusqu'à ce qu'il y ait un cadre légal en place pour prévenir ces abus.
Merci Étienne Meynier d'avoir répondu aux questions de Gims sur l'antenne de RFI. Gims, vous êtes satisfait de la réponse ?
Évidemment.
Merci à vous, Gims, et merci Étienne Meynier. Nous aurions dû être à l'instant en ligne avec Reagan à Kinshasa, mais pour tout vous avouer, on a un peu de mal à le joindre. Reagan avait une question sur l'Espagne et Juan Carlos, qui a régné pendant 40 ans et qui a annoncé qu'il quittait le pays sur fond d'enquête pour corruption. Comment a-t-il justifié sa décision ? Est-ce que c'est une façon d'échapper à la justice, à l'enquête qui le vise ? Pour cela, nous sommes en ligne avec Hubert Pérez, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine. Bonjour Hubert Pérez.
Bonjour.
La question donc de Reagan, quelle a été la réaction de la population, ou d'abord plutôt, est-ce que c'est une façon d'échapper à la justice et l'enquête qu'il vise ? Comment est-ce qu'il justifie, Juan Carlos, cette décision de partir en exil, tout simplement ?
Alors non, c'est pas du tout une façon d'échapper à la justice, à l'enquête qu'il le vise, hein, parce que là, ça a été très clair dans la lettre qu'il a adressée à son fils et dans toute la communication à la fois de la Maison Royale et du gouvernement. Il répondra de ses actes devant la justice, il a le faire, puisqu'une enquête est en cours. Donc, il n'y a pas eu encore de mise en cause réelle dans les affaires privées qui concernent son patrimoine et une éventuelle fraude fiscale. Dans la lettre qu'il a adressée à son fils, il indique qu'il ne désire pas que ses affaires privées nuisent à l'activité de chef d'État de son fils, Philippe VI, et donc il décide de se transporter, ce sont les termes exacts, de se transporter à l'étranger.
On ne sait pas où d'ailleurs, hein, pour l'instant.
La décision est qu'il ne voulait pas le faire. Hein, c'est son fils qui a tenu particulièrement à cet éloignement.
Oui. On ne sait pas de quel pays d'accueil a choisi Juan Carlos pour l'instant. On ne sait pas où il est.
Non, on sait qu'il est allé au Portugal, probablement. Il a fait un court séjour à Abu Dhabi, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'il sera, et peut-être qu'il ira dans des pays différents, là où sont un certain nombre de ses amis.
Alors, quelle a été, Hubert Pérez, la réaction de la population espagnole qui avait, par le passé, en tout cas, beaucoup de soutien pour son roi? Beaucoup d'Espagnols se disaient Juan Carlos, je crois. Est-ce que la population soutient toujours son ancien roi? Et éventuellement, est-ce que ça peut faire mal à la monarchie espagnole?
Alors, ça fait assez longtemps hein, que Juan Carlos est victime d'un discrédit très très important, en réalité depuis l'année 2012, depuis une affaire de chasse.
Au Botswana.
Au Botswana, c'est ça, et on avait découvert que alors que les Espagnols étaient soumis à une crise économique et sociale extrêmement profonde, lui allait voguer en compagnie de sa maîtresse pour faire de la chasse aux éléphants, et ça avait été un coup très très dur, et il y en avait eu d'autres qui frappaient toute la famille royale, donc ça fait en réalité plusieurs années que Juan Carlos subissait un très très fort discrédit qui atteint aujourd'hui l'institution monarchique. C'est d'ailleurs ce qui l'avait conduit à abdiquer en 2014 et à laisser la place à son fils. Alors cette affaire approfondit encore évidemment le discrédit qui le frappe. Tout le problème est de savoir si ceci va complètement rejaillir sur l'institution monarchique. Et là, il y a un débat très très important, puisqu'il y a une partie importante de la population espagnole, en particulier à gauche, et dans les soutiens de la gauche radicale de Podemos, dans les soutiens des indépendantistes, qui veulent en profiter en quelque sorte pour mettre fin à la monarchie, à instaurer une troisième république espagnole. Au contraire, la droite espagnole, mais aussi le Parti socialiste ouvrier espagnol et Premier ministre actuel, Pedro Sanchez, soutiennent l'institution monarchique comme un élément intégrant du pacte constitutionnel de 1978. Et donc, ils considèrent que c'est un élément important de la stabilité constitutionnelle et politique de l'Espagne.
Il y a un débat au sein de la majorité, puisqu'il y a à la fois le PSOE et Podemos. Ça fait des tiraillements dans la majorité ?
Ça fait de réels tiraillements. Alors, c'est pas le seul motif de tiraillement, parce qu'on est dans la préparation du budget et le Parti socialiste voudrait obtenir l'accord des centristes de Ciudadanos, ce qui est déjà un motif de discorde avec la gauche radicale de Podemos. Mais ceci a ajouté, et depuis longtemps, hein, Podemos et son leader Pablo Iglesias remettent en question l'institution monarchique, voudraient un référendum. sur la monarchie, pour ou contre la monarchie, et donc pour ou contre la République, ce que le Parti Socialiste, pour l'instant, refuse. Donc c'est un motif, en effet, de tiraillement entre les deux partenaires principaux de la coalition au pouvoir.
Merci Hubert Pérez, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier et chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine, d'avoir répondu à la question de Reagan à Kinshasa. Et tout de suite, on se transporte vers Conakry, en Guinée, pour retrouver Senkoun. Bonjour Senkoun.
Bonjour Guillaume.
Alpha Condé a pris acte de la demande de son parti, le RPG, d'être candidat à un troisième mandat pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. C'était la semaine dernière. Quelle est votre question, Senkoun?
Oui, la première question, à deux mois de la présidentielle, pourquoi Alpha Condé n'a-t-il toujours pas annoncé sa décision d'être candidat?
Alors, on va en parler avec Kabinet Fofana, qui est politologue et président de l'Association guinéenne de sciences politiques. Bonjour Kabinet Fofana.
Bonjour.
Vous avez entendu la question de Senkoun. Elle est assez simple, parce que, bon, on va pas se mentir, le suspense est assez limité. Pourquoi Alpha Condé n'a-t-il toujours pas annoncé sa décision?
Effectivement, le président Alpha Condé, à la convention du RPG jeudi dernier, a dit prendre acte de la résolution de son parti, l'investissant comme candidat à la présidentielle d'octobre. Alors, pour les auditeurs qui ne suivent pas l'actualité politique guinéenne, il faut préciser que le président Alpha Condé, à la suite du référendum tenu le 22 mars, a promulgué une nouvelle constitution qui lui donne la possibilité légale de se présenter à nouveau après avoir été élu deux fois, ce dont protestent l'opposition et les acteurs de la société civile regroupés au sein du Front national de défense de la Constitution. Et pourquoi n'a-t-il, contrairement en 2015, pas de suite répondu cette fois à la sollicitation de son parti à être candidat? Il faut dire que cette démarche du président est principalement inspirée par le contexte. Quoique le Front national de défense de la Constitution n'ait pas empêché l'adoption de la nouvelle Constitution, et contre tout de même sa candidature à la présidentielle prochaine. Le FNDP, qui avait préalablement prévu de se mobiliser la semaine de la convention du RPG, est donc prompt à battre à nouveau le pavé. Alors stratégiquement, Alpha sait qu'en donnant dans la foulée de la convention une favorable suite à la demande de ses partisans, précipiterait la reprise des manifestations alors que se tiennent les examens nationaux. C'est donc une façon pour lui, bien évidemment, de gagner en temps. L'autre chose, c'est qu'il faut comprendre dans l'attitude assertive du président, celle-ci se rapporte aussi à une rhétorique qui prescrit le sentiment qu'il n'est pas intéressé par dédier un nouveau mandat, alors même que c'est un secret de polichinaire pour peu d'hommes qui suivent aujourd'hui l'actualité politique depuis environ 2019.
Senkoun, vous aviez une deuxième question, je crois.
Oui, effectivement, j'ai une seconde question. Cette probable candidature fait-elle l'unanimité au sein du parti ou des voix discordantes chez les jeunes notamment se font-elles entendre?
Alors, Kabinet Fofana, je vous laisse une minute pour répondre à cette question sur les tiraillements au sein ou éventuels ou supposés au sein du parti présidentiel.
Alors, hormis le ministre Guiraud Baldé, qui est un classique du RPG et très proche du président, qui est parti du gouvernement en protestation de l'adoption de la nouvelle constitution, il y a quelques mois derrière, la candidature du président semble faire l'unanimité au sein de son parti. D'ailleurs, la convention de la CODEC qui réunit les partis politiques et les associations favorables à la candidature d'Alpha Condé s'inscrit dans cette mouvance, celle de conviction et de l'opinion publique, à l'idée que la candidature du président Condé rencontre une forte adhésion. En revanche, Alpha Condé est bien conscient de la disparité entre les jeunes militants à la base et les cadres du parti nommés au poste juteux, et dit d'ailleurs qu'il n'acceptera d'être candidat que si ces derniers s'engagent, entre autres, à faire profiter aux militants des avantages du pouvoir. Après, ceci passe pour un élément de langage aux fins de contenter les jeunes des fiefs qui sont récemment soulevés contre les délestages du courant et qui se prétichent à l'idée du troisième mandat.
Merci, Kabinet Fofana, d'avoir répondu à la question de Senkoun. Je pense que c'est ce que vous vouliez savoir, Senkoun, c'est bon?
Oui, super, c'est bien. Et je souhaiterais rencontrer monsieur le politologue à Conakry.
Alors, on essaiera de vous mettre en contact. Merci beaucoup, Senkoun. Nous allons tout de suite faire le point sur l'actualité africaine et nous revenons pour la deuxième partie dans un instant.